de vous donner sur des sujets dont vous avez entendu parler, un point de vue technique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, une information. Et alors là, j'essaierai d'être le plus objectif possible, après une avis personnel. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que si je voudrais vous donner quelques informations techniques, c'est pour une raison simple. Tout le monde pense que, enfin, en général, le grand public pense que lorsqu'on a affaire à la recherche scientifique, on a affaire à une espèce de dogme qui n'évolue pas. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est surtout, c'est lorsqu'on vous parle de recherche scientifique, on vous donne, vous dit quoi que ce soit, c'est l'état des connaissances au jour J, et c'est certainement pas la vérité. Parce que ça évolue tous les jours, et c'est un système purement intuitif. Donc si vous voulez faire de la recherche scientifique un jour, surtout, la première chose qu'il faut apprendre, c'est à critiquer ce qu'on vous dit. Et ne jamais le croire, argent comptant. Il y a forcément une part de vérité, mais je dirais que c'est certainement pas. C'est un état. En génétique, on a bien connu ça. Hein. Ça va varier à une vitesse grand V en très peu de temps. Donc, ce que j'ai essayé de sélectionner, ce sont des choses que je connais un peu, beaucoup. Et qui font l'objet de discussions d'actualité. Alors, je vais en parler de trois. Bon, d'abord, bien sûr, l'imagerie génétique et le conseil génétique. Le conseil génétique, ça veut dire quoi? Enfin, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, et tous les problèmes éthiques qui se posent, parce que vous verrez que c'est pas forcément. Il y a des situations qui sont évidentes, comme toujours, mais il y a des situations qui sont limites et pour lesquelles il est intéressant de pouvoir discuter. La deuxième chose, bon, les cellules souches. Et pareil, qu'est-ce que d'une cellule souche, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, sur ce qu'on vous raconte, qu'est-ce que, etc. Et troisième, le clonage. Le clonage avec un certain nombre, définir ce qu'est le clonage, ce qu'on peut et penser faire avec ça. J'ai raison quelques diapos s'il y avait un petit peu de temps à la fin pour vous donner, non pas pour faire la polémique, parce que je veux dire, ça peut en faire beaucoup, mais sur qu'est-ce que ça veut dire faire un organisme génétiquement modifié. Et je ferai aucun commentaire après. On pourra discuter si vous voulez, mais je ne ferai pas de commentaire. Mais je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Qu'est-ce qu'on fait de manière pratique. Alors, les diapos suivantes. Bon, d'abord, je voudrais faire quelques rappels. Alors, c'est évident pour vous, c'est dans vos têtes, je pense que c'est intéressant de le faire parce que je veux dire, c'est mettre en perspective ce qu'on fait en génétique. Donc, le support du point de vue cellulaire de l'hérédité, comme vous le savez, ce sont les chromosomes. Dans l'espèce humaine, pas dans toutes les espèces, mais en tout cas dans l'espèce humaine, comporte 22 paires de ce qu'on appelle les autosomes et puis des chromosomes classiques sexuels. Alors, on est capable, à l'heure actuelle, de faire ce qu'on appelle de la peinture chromosomique, c'est-à-dire qu'on a des sondes qui sont spécifiques de chaque chromosome, qui sont marquées avec des couleurs différentes, vous voyez ici. Dans un noyau entier, ce n'est pas une pleine sphère, c'est un noyau. Mais je n'ai pas compris, moi. Parce que moi, je suis là pour monter l'image avec la télécommande. C'est pas la mienne, la télécommande. Faites-le, hein, c'est pas de problème. On est capable de reconnaître tous les chromosomes ici, donc c'est un noyau et vous voyez avec les différentes couleurs, ça marque les différents chromosomes et un noyau qui n'est pas en division, qui n'est pas en métaphase, vous voyez la répartition des chromosomes et vous voyez très bien ici, je veux dire, par exemple dans un cas type on peut très bien voir les autosomes, par exemple le X qui est ici, le K, etc. Donc on est capable de repérer parfaitement et individuellement chacun des chromosomes et l'analyser. Alors, là, on était à un niveau cellulaire. Maintenant, il faut savoir que justement, de quoi sont formés les chromosomes. Les chromosomes, ils sont formés d'une molécule qui détient l'information génétique, qui est la molécule d'ADN, et qui est super enroulée, c'est-à-dire qu'elle fait des tours sur elle-même, et ensuite, ces tours font encore des super tours, et tout ça est enrobé, et des protéines se fixent sur cet ADN, ils vont encore le courber, ils vont encore l'entourer de manière à le compacter, parce qu'il est énorme, il fait 3 mètres, et le compacter pour le faire entre les noyaux. Et donc les chromosomes, ce sont en fait de l'ADN avec les protéines associées, et tout ça étant compacté. Et l'information, elle n'est pas au niveau, bien sûr, des chromosomes, elle est au niveau de l'ADN. L'ADN, c'est une succession d'informations sous forme de 4 paires de bases que vous connaissez, la CGT, et qui, donc, suivant un code génétique, code la synthèse protéique. Je vais vous faire un petit rappel tout à l'heure. Et en fait, nous avons 3 milliards de paires de bases, c'est-à-dire 3 milliards de signes, la CGT, et il code pour à peu près, on estime à l'heure actuelle, pas qu'il y en avait plus, mais il y en avait en fait probablement que 30 à 35 000 gènes. Et donc les gènes se succèdent les uns derrière les autres. Et vous voyez que, en fait, la majorité de l'ADN ne code pas pour gènes, ne code pour rien du tout, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais les gènes se succèdent les uns derrière les autres, ou plutôt, dire l'information contenue dans ces gènes succède l'un derrière les autres et permet la synthèse de toutes les protéines de notre corps. Donc le dogme, c'est quoi? C'est que l'ADN, qui contient l'information, sert à la synthèse protéique, mais a besoin d'un intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager. Et donc cette information, une protéine spécialisée qui s'appelle l'ARN polymérase, va transformer et va synthétiser à partir du message d'ADN, un message ARN, le ribosome va se fixer dessus, il va synthétiser la protéine. Donc vous voyez qu'on passe d'un système au niveau de la molécule des bases à une molécule beaucoup plus grande, qui est la molécule d'ADN qui est formée par l'enchaînement des bases et qui ensuite est compactée à l'intérieur d'un noyau qui lui-même est à l'intérieur d'une cellule. Vous voyez donc qu'il existe des variations d'échelle qui sont extrêmement importantes. L'ADN, c'est de l'ordre de l'angstrom, ici, des paires de bases, et ici, du micron. Donc, on passe à des échelles de complètement différentes. Un noyau, c'est très gros, et une molécule d'ADN, c'est très fin. Ah, ça, c'est une erreur. Ça s'est mis là-dedans. Donc c'est illustré là-dessus, vous voyez qu'à partir ici nous avons une cellule, et à partir du noyau, vous avez des chromosomes et vous avez l'ADN. Alors, oui, donc ça c'est l'implantation, ce qu'on appelle les codons. Chaque 3 paires de bases forme un codon, ce qu'on appelle un codon, qui spécifie un acide aminé. Vous savez que les protéines, ce sont des assemblages d'acides aminés. Bon, ça c'est. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN. C'est les premières techniques. Et en fait, chaque piste représente une base à CGT et on lit de manière de par ici. Par ici, moi j'ai A, C, T, C, T, C, A. C'est comme ça qu'on voit. On analyse les bases les unes après les autres, on les met sur un gène et on peut comme ça reconstituer complètement la séquence d'un gène. Alors il faut vous rendre compte que ceci, on peut arriver à le faire sur quelques milliers de paires de bases et l'ADN total c'est 3 milliards. Hein, donc quand on dit qu'on ne séquence pas la totale, on séquence par des blocs d'à peu près un millier de paires de bases et bien définies et isolées. Et donc ça a permis d'avoir la séquence totale du génome humain à l'heure actuelle. Une chose, quand tu dis la séquence du génome humain, c'est la séquence d'un individu. C'est un individu mâle qui a été choisi au hasard et il a été choisi dans une banque, ce qu'on appelle de cellules. Il en a pris cette habitude. Donc, il faut être aussi conscient que la séquence de cet individu, elle est unique. On parlait tout à l'heure. Nous n'avons pas, personne dans cette scène a la même séquence de génome. Personne. Donc, en fait, on a séquencé un génome type. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on séquence ce génome type? Ben, je veux dire, on va le comparer, un gène de ce génome type, on va le comparer à la séquence du même gène, par exemple, chez un malade. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les maladies génétiques? Ben, les maladies génétiques, ben, c'est des maladies à transmission héréditaire, comme leur nom l'indique. À l'heure actuelle, on sait à peu près qu'il y a probablement plusieurs milliers de maladies touchant des gènes différents. Un millier, grosso modo, est identifié. L'espèce humaine est l'espèce qui est la mieux prouvée génétiquement. C'est-à-dire qu'on a dans des bases de données à peu près entre 50 et 60 000 mutations différentes, c'est-à-dire variations de l'ADN différentes liées à des maladies génétiques. Nous sommes pour une raison très simple, parce que quand un enfant naît, il est automatiquement vu par un pédiatre, pas dans nos pays, et on peut le faire. Et donc, quand c'est l'anomalie, il est très vite, l'anomalie est identifiée. Lorsque l'animal naît dans une ferme, c'est pas du tout de l'âge génétique, hein, ou dans la nature. Mais c'est probablement la raison pour laquelle nous sommes une espèce où il y a plus de mutations identifiées. Donc, pour la plupart, on peut faire un diagnostic moléculaire qui va identifier la présence d'une anomalie dans le gène. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez dit tout à l'heure, il y a des séquences, par exemple, et on compare cette séquence. Alors, bon, ça, c'est un logiciel très très simple qui font ça. On va comparer les deux séquences et puis, bon, on regarde c'est les variations entre ces deux séquences. Et on arrive assez facilement à identifier une variation dont on soupçonne qu'effectivement, elle est la cause de la maladie. Alors, pour être certain qu'il y a bien la cause de la maladie, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde dans la famille. Il faut qu'il y ait deux conditions. Que toutes les personnes atteintes de la famille portent la mutation. Et deux, qu'elles ne soient pas sur un individu sain. Parce que sinon, ça veut dire que la maladie n'est pas liée à ça. C'est précisément de la génétique. Et ça, bon, on arrive. Ce qui veut dire qu'on effectue rarement un diagnostic tout seul. On l'effectue dans une famille. On regarde le plus d'individus possible dans la famille pour déterminer ces sujets. Alors, donc, comme je vous ai dit, la plupart de ces anomalies sont des mutations, mais on a aussi ce qu'on appelle des anomalies chromosomiques, des duplications et des déletions. Par exemple, un bout de chromosome qui au moment de la méiose, disparaît, il est délété. Ça peut être des duplications, comme on voit. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. C'est-à-dire, un bout de chromosome, eh bien, il est dupliqué en deux. Donc ça, c'est gênant, parce que ça veut dire que les gènes vont être présents en trois copies, alors que l'individu qui n'a pas la duplication, les gènes sont présents en quatre copies. Et alors, souvent, c'est neutre, c'est-à-dire que peu importe qu'il y ait un peu plus de gènes, un peu plus de protéines synthétisées, mais des fois, bien, c'est délétère, ça induit la pathologie. Donc, on a les translocations, c'est-à-dire par exemple un petit bout de chromosome collé sur un autre. Alors, ça en général, ça arrive dans les pathologies héréditaires, mais c'est très fréquent dans les cellules cancéreuses. Hein. Les cellules cancéreuses portent très souvent des translocations et c'est ça qui fait la cancérogénèse plus souvent de la cellule. La suivante, parce que je m'en rappelle plus ce que c'était. Oui, parce que là c'est lié à l'animation. par exemple, je veux dire, là on a un exemple qui est l'exemple de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, où on a des recombinaisons entre des séquences proximales et distales. Et en fait, bon, ça c'est pas facile. Et en fait, on arrive à avoir une micro-duplication d'une région qui fait 1,5 million de paires de bases. Et qui est présente uniquement chez les malades. Et donc, ils ont ce genre de trois copies, alors que nous, on est juste à la salle. On a comme deux. Et ça induit, il se trouve qu'il y a un gène qui est impliqué dans la synthèse d'une protéine importante de ce qu'on appelle la myéline. La myéline, c'est la gaine qui entoure l'axone et qui permet la production de l'influx nerveux. Et ça conduit à une neuropathie périphérique, parce que la gaine ne se forme pas. Les malades n'ont pas une gaine myéline bien formée, ils ont une neuropathie arriver, on connaît cette anomalie, eh bien on arrive.
Vous mettre la suivante.
On arrive assez facilement à faire du diagnostic moléculaire, c'est-à-dire qu'on isole par une technique, ce qu'on appelle PCR, cette région-là. On la met sur un gel, par exemple ici. Ça, ici, c'est un PCR, ici, c'est un PCR. Puis on regarde, par exemple, ici, vous voyez que la mère et le fils sont portés une bande supplémentaire ici, que l'individu sain ne montre pas. Et ça, c'est ce qui permet de diagnostiquer, dire il y a bien une duplication de ce gène, et donc le patient est éparé. Là, par exemple, on amplifie ce fragment-là, c'est normal, ces deux bornes n'existent pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de pouvoir faire un diagnostic de la présence d'une anomalie dans n'importe quelle échantillon d'ADN. Alors, quand est-ce qu'on le fait? Et quand, à partir de quel type d'échantillon on va extraire les ADN pour faire ce type de diagnostic? Bon, on peut le faire à partir des cellules amniotiques, on peut le faire à partir des cellules donc, de l'embryon, ce qu'on appelle le trophoblastes, qui sont des extra-embryonnaires, donc on voit chez la mère, on racle un petit peu de trophoblastes, on extrait les cellules, on les fait pousser, on fait on extrait l'ADN et on fait le diagnostic génétique là-dessus. Mais on peut le faire aussi à partir d'adultes. Donc, à partir de lymphocytes, c'est-à-dire qu'on fait une prise de sang et on extrait les lymphocytes, on extrait l'ADN et on fait l'analyse. C'est relativement facile à faire, c'est pas très cher maintenant une analyse génétique. En France, aux États-Unis, il y a des sites privés qui ont fait très cher. Mais en France, c'est-à-dire que ça se fait un coût moyen, c'est quelques centaines d'euros. Et bien, voilà. Quand c'est en routine sur beaucoup d'individus. Donc, alors, une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on rend? Parce que ce sont des familles qui sont consultées, des femmes enceintes, ou bien un enfant qui présente quelque chose, une anomalie. Bien, qu'est-ce qu'on rend comme outil de diagnostic et qu'est-ce que ça signifie? On ne dit jamais. Vous êtes atteint, votre enfant va être atteint. On dit présence ou absence d'une anomalie. Si présence d'une anomalie, on dit laquelle? Mutation, paire de base, par exemple. Pourquoi? Parce que la présence d'une anomalie ne signifie pas automatiquement une pathologie. C'est ce qu'on appelle la pénétrance en génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que ça a un impact. Ça veut dire, alors les généticiens ont trouvé une phrase extraordinaire. Ça s'appelle la mutation est un équilibre pistatique et congénétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai dit, nous n'avons la mutation, c'est la mutation d'un gène. Une paire de bases, c'est sur 3 milliards. Tout le reste, c'est d'autres gènes. Donc, les autres gènes, comme je dis, ils ne sont pas identiques sur les individus. Pendant longtemps, on a cru que nous étions tous forts. Probablement, vous connaissez la signification de cela, ce qu'on appelle le terrain en médecine, c'est-à-dire que il y en a qui vont être sujets à avoir fréquemment des maladies infectieuses, être enrhumés, d'autres qui vont courir, par exemple, il y en a qui courent plus que d'autres. Bien, on a démontré chez les souris, par exemple, que, parce que c'était des lignées pures, on a démontré qu'il y a entre une et deux fois en variation de capacité simplement liée au fond génétique. On les fait courir, on les fait travailler sur un en rotarot, on regarde les performances locomotrices. Mais il y a des souris qui vont deux fois plus vite et deux fois plus longtemps que d'autres. Donc il y a de réelles capacités génétiques. Il y a d'un individu à l'autre, nous ne sommes pas porteurs des mêmes. Et donc, dire la mutation, elle s'exprime sur ce fond génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez une mutation sur un gène qui va coder pour quelque chose qui a à voir avec votre système immunitaire, si de l'autre côté, les autres gènes du système immunitaire fonctionnent très haut, probablement ça aura un peu d'impact. Par contre, si déjà il ne fonctionne pas très bien et que vous rajoutez une mutation dans ce gène-là, probablement ça sera une pathologie beaucoup plus sévère. Donc, déjà, difficulté de faire, on peut dire la présence ou absence, mais quelle est la signification en termes de signes cliniques, c'est très difficile à dire. En plus, c'est la même chose, on n'a pas. La demande qu'on a souvent, c'est en fait de dire. Voilà, d'accord, vous avez trouvé une mutation, vous avez trouvé. Oh, ok, bon, on décrit le tableau. Mais souvent, famille, il y en a déjà. Et souvent, dans la famille, il y a un cas sévère et un cas pas sévère. Il me dit, mais moi, mon enfant, qu'est-ce qu'il va avoir? Ça va être sévère ou pas sévère? Bon, malheureusement, on n'a pas de moyen de dire. Il y a quelques... Bon, ce qu'on appelle les relations phénotypes et génotypes, c'est-à-dire certains types de mutations sont apparemment plus sévères que d'autres, mais la plupart du temps, on décrit en termes de probabilité, c'est-à-dire, on sait, par exemple, la maladie que je vous dis, VD, Charcot, Marie Tous, par exemple, les 80%, bon, ça se passe comme ça, ça va arriver pas vers 20 ans, etc. 10% sont des formes pédiatriques très sévères, c'est-à-dire c'est des gamins des fois qui ont 10 ans sont en fait roulant, et 10% de rien. Voilà. Donc pas grand-chose, c'est-à-dire ça peut, et en tout cas, ils ne nécessitent pas de traitement, ils ne vont pas à l'hôpital. Donc vous voyez que ce n'est pas facile de faire, parce que qu'est-ce que demande tout parent, qu'est-ce qu'il demande? Il demande quelque chose de précis, avec une évolution cadre. C'est-à-dire, voilà, ça se passait comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est pas possible. On ne peut raisonner et dire, bon, dans l'immense majorité des cas, c'est comme ça que ça va se passer. Mais ce n'est pas une certitude. Alors, qu'est-ce que ça? Voilà. Donc, de plus, jusqu'à présent, parce que le gros problème, quel est le gros problème que ça va poser? Le problème que ça pose, c'est le problème de ce qu'on va faire d'un diagnostic. Qu'est-ce qu'on va faire d'un diagnostic et du génétique? Ben, la plupart du temps, bon, ça peut être effectivement pour faire du préventif, mais la plupart du temps, ça aboutit à quoi? La demande est quoi? Elle est l'interruption de grossesse. Donc, pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, nous n'avions pas de traitement, pratiquement, pour toutes les maladies génétiques, il n'y avait aucun traitement. Il y en a encore très très peu. Hein. Les Duchenne, c'est 86, le gène a été trouvé, il n'y a toujours pas de traitement. Hein. 20 ans après, malgré les tétons qui sont trouvés, il n'y a rien. Bon, alors. Donc, pendant longtemps, ça a été quoi? Non pas le traitement, mais une attitude, c'est le diagnostic, et le diagnostic avec un conseil génétique pour l'interruption de grossesse ou pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, il n'y a pas de solution curative, la seule solution qu'on pouvait, donc, c'était une solution très négative. Et donc, en fait, quelle a été l'attitude de parents très longtemps? L'attitude, c'était d'expliquer aux parents deux choses. Donc, la sévérité de la maladie, mais vous avez vu que ce n'est pas très facile, mais bon, une pathologie très sévère où tous les enfants, où 80% des enfants meurent avant 2 ans, etc., ça on peut l'expliquer ici. Mais on va toujours avoir des situations, les maladies les plus fréquentes, c'est les maladies adultes, c'est génétique, dans lesquelles l'évolution est extrêmement variable. Je vous en donnais quelques. Bon, la deuxième chose, bon, le pronostic vital, comme je vous ai dit, si pratiquement on sait qu'en âge de 5-6 ans, les enfants meurent tous avec beaucoup de souffrance, bon, ok. Alors, en général, le problème éthique se pose relativement peu. Et donc, ce qui est fait, c'est que la décision est prise par la famille, de toute façon, après explication et conseil du praticien. Le praticien qui peut refuser de pratiquer la curation de grossesse pour des raisons qu'il comprend. Hein. C'est-à-dire qu'il est encore obligé d'accomplir là. Mais par contre, je veux dire, quand on fait le conseil génétique, et bon, je veux dire, c'est obligatoire d'envisager une interruption de grossesse, parce que sinon ça n'a pas de sens. Alors, comme je vous dis, pour des pathologies relativement sévères, ça n'a pas posé de problème. Et ça n'a pas posé de problème, y compris en termes de développement thérapeutique. Vous avez tous entendu parler des histoires de thérapie génique avec les cibles et les enfants bulles, où en fait, il y a eu, sur des enfants traités, il y a eu 4 cas de leucémie. Ça a été arrêté temporairement, sans on allait s'apercevoir qu'en Angleterre, ça avait été quasi. Mais le ski, d'une manière extrêmement sévère, il y a très peu de chances qu'en dehors de la bulle stérile, c'est une magie du stade humide, hein, en dehors de la vie dans une bulle stérile, l'enfant ne vit pas au-delà de maintenant 2 ans. Donc, on pouvait prendre des risques en termes thérapeutiques et une interruption de process pouvait tout à fait se justifier. Par contre, que fait-on? Les maladies les plus fréquentes, c'est les maladies, comme je dis, adultes. La polykystose rénale, la plus fréquente, une personne sur 600, ça ne peut pas être une maladie rare, elle apparaît vers 50 ans. vrai, bon, c'est pas la même chose. Sauf que y a les gens qui sont tous en dialyse avec une espérance de vie plus courte et c'est 5% du budget de la sécurité sociale parce que c'est la majorité des dialysés. Bon. Donc c'est quand même un problème réel pour tout le monde. La maladie de Charcot-Marie-Tooth dont vous parlez, c'est une personne sur 2700 et avec une demande, il n'y a pas de traitement. Nous avons trouvé peut-être le premier traitement, il y a l'essai thérapeutique qui est en cours. Nous aurons les résultats dans 6 mois. Mais bon, il n'y a pas les essais quoi dans le monde. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement. Donc, il y a juste la question se pose, si une famille vient et vous dit, je voudrais avoir pour mes enfants et pour le futur, je suis porteur, j'ai une polycystose rénale, j'ai une maladie de Charcot-Marie, j'ai etc. Je voudrais que mes enfants soient testés et j'envisage de faire une interruption de grossesse. Alors, il y a eu un gros débat. Moi, je ne suis pas d'accord avec la majorité des collègues généticiens là-dessus. Bien. Quand une maladie, comme je vous dis, met en jeu l'espérance de vie est extrêmement sévère. Bon. Il est peu probable que dans 1 ou 2 ans, on aura la solution thérapeutique. C'est peu probable. Si la souffrance de l'enfant est... L'interruption de grossesse se justifie tout à fait. Par contre, si vous faites une interruption de grossesse, vous avez une maladie qui apparaît en moyenne à 20-30 ans. Enfin, je dis la maladie de Charcot-Marie, il y a 5 ans, il y a le plus célèbre neurologue au monde, mais il n'y aura jamais de traitement. Bah, maintenant, si c'est dans le monde, il y a 1 000 patients qui sont traités, ce qu'on a trouvé, et on va voir. Donc peut-être que dans 2-3 ans, c'est fini. Donc, il y a des gens qui ont pratiqué une interruption de grossesse pour des maladies de Charcot-Marie. Pour moi, ça pose un véritable problème éthique. C'est-à-dire, dans quel cas vous allez le faire, dans quel cas vous n'allez pas le faire. Là-dessus. Mais c'est une véritable question. Hein. Il y a pour moi des maladies qui ne sont pas très sévères, qui ne mettent pas en jeu la vie immédiatement. C'est-à-dire, probablement la solution thérapeutique, on verra à la maladie de et donc, ça pose vraiment la question qu'est-ce qu'on fait sur des options de côté. Ce n'est pas une question du tout philosophique ou religieuse. Pour moi, c'est une vraie question pratique. Hein. Voilà. Le suivant, je crois que voilà. Donc, je vais vous parler notamment un petit peu, parce que là aussi, c'était partie de ce que l'on voit à l'histoire, c'est-à-dire bon, la solution des cellules souches. Pour vous dire, à l'heure actuelle, le traitement des maladies génétiques, il y a 3 solutions envisagées. La thérapie génique, c'est-à-dire que l'on remet un gène normal dans une cellule qui est porteuse de mutation. La deuxième, c'est la thérapie cellulaire qui met en jeu le type de cellules souches. Et la troisième, qui en fait c'est ce qui marche la mieux pour le moment, la pharmacologie classique. Les petites molécules, c'est ce qu'on a fait avec le Charcot-Marie. Les petites molécules avec les volumes. Et bon, donc c'est les 3 solutions qui sont envisagées. Pour la plupart du temps, surtout je dis pour des maladies qui ne mettent pas en jeu l'espérance de vie, la première chose qu'on fait, c'est pas l'étude de la maladie, c'est de développer un modèle animal, c'est-à-dire une souris modifiée génétiquement, et qui reproduit le plus fidèlement possible la maladie. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on peut étudier l'évolution, donc on ne peut pas faire grand-chose de malade, et que les phases asymptomatiques, c'est-à-dire les phases dans lesquelles il n'y a pas de signe clinique, il n'y a pas de symptômes, c'est extrêmement important de voir ce qui se passe avant. Parce que probablement, les solutions thérapeutiques sont avant. Et ensuite, on peut tester des solutions thérapeutiques assez facilement, sans problème éthique sur un animal. D'autant plus qu'on a développé, souvent, nous ce qu'on a développé, c'est qu'on introduit des bouts de génome humain dans la souris, et dans ce bout de génome humain, il y a le gène malade. Donc en fait, ça s'appelle les souris humanisées. Donc en fait, c'est des vrais modèles, ce qu'on appelle précliniques, qui nous permettent de tester ces niveaux-là. Alors, donc, la thérapie génique, je ne vous en parlerai pas. Alors, si vous voulez, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la thérapie génique. Je pense qu'elle n'est plus là. Hein, parce que, je veux dire, la semaine dernière, on voit qu'un autre centre qui a pratiqué la même chose a maintenant aussi des enfants qui sont atteints de leucémie, probablement pour la même raison, c'est-à-dire insertion du gène et l'activation de notre gène. Le gène, c'est le gène du cancer. Il y a des cancers. Bon, je pense que ça a posé de très très gros problèmes. Les cellules souches, c'est un peu le même genre, mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche ? Une cellule souche, c'est une cellule qui est le temps de restituer toute partie de ce tissu. Elles proviennent de quoi? Elles proviennent d'un embryon, j'appelle ça les cellules souches embryonnaires, ou elles proviennent de tissus adultes, cellules souches adultes. Donc, la cellule souche embryonnaire, j'avais pas prévu que ce soit super, il faut remonter tous les textes et les diapos. C'est pas possible de basculer beaucoup de vidéos. Donc, la cellule souche embryonnaire, c'est quoi? Par définition, c'est une cellule souche, c'est une cellule qui peut reconstituer tous les tissus. C'est-à-dire qu'elle est ce qu'on appelle totipotente, c'est-à-dire qu'elle peut donner tous les tissus cellulaires de l'organisme. Qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on envisage de faire dans ces cas-là? C'est que par exemple, ici, on a quatre cellules embryonnaires après fécondation. On va prendre une de ces cellules, on la multiplie et on va la faire se différencier. Par exemple, en la réimplantant dans un tissu. Et à ce moment-là, comme elle est totipotente, elle va redonner la cellule du tissu. Si cette cellule est originaire de non atteint par la pathologie, et bien à ce moment-là, en se différenciant, c'est une cellule normale. Et donc, elle va, on espère qu'elle va corriger l'anomalie. Alors, ça peut servir dans le cas de pathologie héritable, mais ça peut servir aussi dans les maladies neurodégénératives. Par exemple, il y a des essais qui sont faits d'implantation de cellules souches dans le cerveau pour compenser la mort cellulaire dans le cas d'Alzheimer, Parkinson. Donc, je veux dire, ça peut aussi servir chez un adulte. Voilà, alors la cellule souche embryonnaire, ben, je veux dire, le problème c'est que bon, plus l'embryogenèse avance, plus les cellules sont différenciées. Puisque, je veux dire, on part d'un ovocyte avec un spermatozoïde, un petit embryon, puis au fur et à mesure, on appelle ça la restriction des potentialités embryonnaires. C'est-à-dire que petit à petit, il y a les tissus qui se différencient, les organes qui se forment, et à ce moment-là, les cellules ne sont plus capables de redonner en théorie autre chose que ce qu'elles sont. Suivante. Alors, vous voyez bien que la cellule souche embryonnaire impose d'avoir accès à des embryons. Ce qui pose pour certains, moi ça ne m'en pose pas, pour certains, pose des problèmes éthiques. Parce que. Le problème qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de lorsque un couple a projet d'avoir un enfant, bon, il y a énormément d'ovocytes, c'est pas les prélèvements d'ovocytes qui sont nombreux, et la plupart du temps, il reste des embryons qui sont des mélanges congelés, on ne sait pas quoi faire. On a tout été conservé un certain temps, parce que ça c'est la loi. Et lorsque les parents sortent parce qu'ils ont eu un enfant, ils ont eu une maladie, c'était compliqué, etc., pour X raisons, ou parce qu'ils n'avaient pas on a assez, ils arrêtent, ça reste dans les congélateurs, pendant hein, des années. Donc, je veux dire, aux États-Unis, par exemple, dans tous les pays, sauf en France, bien, il pendant très longtemps, on a. Les informations numériques peuvent être utilisées pour faire de la recherche pour justement essayer de déligner ces liens. En France, il y a le débat par exemple sur l'embryon, etc. C'est un débat très complexe avec des bioéthiques. Enfin, moi, j'ai déjà connu parce qu'en France, c'était Jean-François Matéli. Donc, on a discuté assez souvent, il n'y avait pas d'accord avec lui non plus d'ailleurs. Mais bon, il avait sa position de culte catholique. ça posait vraiment la question parce que c'est vrai que la cellule souche embryonnaire c'est la source de tous les tissus potentiels. Par contre, la cellule adulte, on sait qu'il existe des cellules souches chez l'adulte. Pourquoi? Parce qu'il y a des renouvellements tissulaires. Alors, par exemple, on sait très bien que les cellules sanguines, il y a des cellules souches, pas beaucoup, quelques milliers, qui sont dans la moelle et qui vont donner toutes les cellules, les lignées blanches, les lignées rouges, les plaquettes, etc. L'épiderme, ben on sait que les cellules d'épiderme meurent et que les cellules les remplacent. Et c'est la même chose, par exemple, pour l'intestin. Là, je vous donne un petit exemple. Par exemple, ici, vous avez l'épiderme intestinal, et à la base, souvent, ce qu'on appelle dans les cryptes, on a une cellule dite souche. Quand une cellule de l'épithéliome meurt, qu'est-ce qui se passe? Ben, la cellule souche se divise en deux cellules filles. Il y en a une qui reste souche, alors je ne connais pas bien. Hein. Il y en a une qui reste souche et l'autre qui va se différencier en cellule épithéliale et qui va remplacer la cellule morte. Donc on a le mécanisme, et donc il restera toujours une cellule souche, mais lors de la division, il y en a une des deux qui va devenir, qui va remplacer la cellule épithéliale. Donc ces cellules souches de l'épithéliale intestinale, on les connaît, ne sont pas faciles à identifier et à séparer, comme les cellules épidermiques, mais bon, on a des moyens de faire, et on l'a envisagé comme un enfant, de faire ce genre de maladie. Alors, bon, elles sont fréquemment utilisées en clinique, hein, par exemple, les greffes de peau, ou la peau artificielle, par exemple, ou les greffes de moelle. Les greffes de moelle, en cas de problème militaire, ou d'hémopathie maligne, de cancer de lymphome ou de myélome. On donc tu les cises à la moelle, puis on fait une transplantation. Donc, ça, c'est très utilisé. La suivante. Par contre, je veux dire, récemment, il y avait un grand espoir qui était né, qui était le savoir. Ben, c'est que les cellules souches pourraient, dans certaines conditions, se dédifférencier, se transdifférencier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, une cellule souche hématopoïétique qui est prélevée dans la moelle, on la greffe dans un muscle, elle pourrait donner une cellule musculaire. C'est-à-dire que certaines cellules souches pourraient donner autre chose que le renouvellement de leur tissu. Alors ça a été fait comment? Ça a été fait parce qu'on a fait rentrer ce qu'on appelle un marqueur fluorescent à l'intérieur des cellules, puis on les a suivis comme ça. Puis on s'est aperçu que par exemple, il y avait des cellules, c'était fait chez les souris, tu l'as dans aucune preuve. Et donc, par exemple, quand on a pris des cellules souches hématopoïétiques, on ne sait pas très très bien les en fait, bon, ok, on les marque, on les met dans un muscle et on voit que certains noyaux, par exemple, les muscles sont fluorescents. Donc les gens disent, ben voilà, quand différencier, parce que c'est normalement une cellule du sang, pas une cellule du muscle. Et donc ça a donné un très très grand espoir qui était de faire des lignées comme ça, à partir de dons, à partir d'organes prélevés, à partir d'un certain nombre de choses, faire des lignées, voir des espèces de sources avec des tubes, comme ça, cellules, machin, tac, on implante, on muscle, on implante un truc, et donc on va corriger et guérir. La suite. Malheureusement, la plupart de ces travaux ont été remis en cause. Parce que c'est aperçu que, par exemple, souvent, c'était des infusions cellulaires qui se passaient. Mais pas du tout la transdifférenciation, c'est-à-dire que les deux cellules qui fusionnaient entre elles, qui avaient une carotide de 4M, donc c'est comme ça qu'on s'est aperçu. Et en fait, c'était pas avant de la transdifférenciation. Et donc, en fait, cet espoir, il est fortement remis en question. Alors, pas du tout, comme je vous l'ai dit, bien sûr, pour l'utilisation d'un cellule souche dans sa fonction normale. Enfin, on l'utilise toujours, hein, c'est pas... mais comme une espèce de médicament qui pourrait remplacer à peu près n'importe quel type cellulaire. Ça, apparemment, c'est faux. Et donc, malheureusement, notre seule certitude de l'heure actuelle, c'est que les cellules souches embryonnaires sont aussi potentes, que c'est la seule source dont on est certain que. Alors, par contre, ça peut poser d'autres problèmes. Si, dans n'importe quelle condition, on implante une cellule souche, quelque part, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va toujours redonner du bon tissu ou est-ce qu'elle ne va pas faire des tumeurs? Hein, parce que c'est pas vrai, on a les deux. Quand on a fait ça chez la souris, on a les deux types de comportements. Hein. Donc, je veux dire, il faut être encore une fois très prudent, mais par contre, je veux dire, c'est vrai qu'elle est une chose plus potente et que c'est les gens qui disent que les cellules souches adultes, c'est ça, ça va être la panacée, qui va éviter des problèmes, etc., etc. Bon, je veux dire, c'est peut-être vrai. Comme je dis, la science, le dogme absolu n'existe pas. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude de pouvoir utiliser de manière concrète en clinique des cellules souches adultes pour faire du traitement. Les souches embryonnaires, il y a quelques décennies. Bon, dernier, le clonage, parce que vous avez entendu parler du clonage. Alors, parfois, le clonage moléculaire. Le clonage moléculaire, c'est ça qui permet de faire des organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire de prendre un petit bout d'ADN, de le mettre dans un vecteur, plasmide, et qui permet de le faire se multiplier et d'avoir en grande quantité. Moi, là, je parle du clonage in vivo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Comment peut-on reproduire à l'identique génétiquement un individu? Alors, il existe deux techniques majeures, ce qu'on appelle la scission d'embryon, la seconde étant le transfert de noyau. Alors, justement, qu'est-ce que scission d'embryon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend un embryon, on a 4 cellules, on le coupe en deux, on sépare les deux cellules, et ça va les deux, donc à partir de 1, on va obtenir deux individus parfaitement identiques. Alors, c'est le principe des jumeaux. Et ceci, je vous dirai, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui est utilisé en agriculture, en fait, dans la production animale. C'est comme ça qu'on fait. Hein. C'est comme ça qu'on fait à partir, par exemple, d'un cheval de course ou d'individus qui ont une haute valeur économique, vous les faire reproduire comme ça, on coupe en deux, en quatre, et on en fait quatre au lieu d'un. C'est pratiqué de manière courante. Alors, c'est possible que chez les mammifères. Pourquoi c'est possible que chez les mammifères? Parce que chez les mammifères, il n'y a pas ce qu'on appelle relocalisation. Ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre un nouveau site, toute une collection, à prendre une cellule adulte, prendre le noyau de cette cellule adulte, enlever le noyau de l'ovocyte, alors ça c'est un aspirant qui fait pète, enlève le noyau, et à la place, on met le noyau de la cellule adulte. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, en fait, toute une collection d'ovocytes, fertilisés en général, mais on peut fertiliser, qui sont porteurs du même information génétique et donc du même noyau, de la même. Donc par exemple ici c'est l'ovocyte d'une mère quelconque, ici c'est la cellule adulte, ça a été parce que chez les mammifères et chez les animaux ce sont les cellules des mammaires. Parce que bon, c'est assez gros, le noyau est assez gros, c'est assez facile à récupérer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on fait ça, ben, le noyau est reprogrammé par l'environnement de l'ovocyte. Est capable et devient à nouveau le programme de différenciation est complètement éliminé, en quelque sorte lavé, et donc on arrive à avoir plus ou moins quelque chose qui ressemble à l'ovocyte de départ, sauf que on a fait toute une série de d'individus qui vont avoir les ovocytes qui vont avoir le même patrimoine héréditaire qui n'est pas celui de départ mais qui est celui de l'individu X qui a servi de donneur au noyau. Alors, ça ne marche pas de manière extrêmement. Le pourcentage de réussite est faible. Donc, c'est pas. Et ce n'est pas totalement anodin, parce que la reprogrammation, apparemment, elle est vraie, elle marche, mais pas pour tout. Et très souvent, les individus qui naissent ont soit une espérance de vie plus courte, soit ça passe au bout de quelques temps qu'ils ont quelques anomalies, parce que le patrimoine est le même, mais il semblerait qu'en dehors de random qui est que tout est dans la séquence de l'ADN, on ait des zones qui subissent ce qu'on appelle l'empreinte génétique, qui est issue en fait de nos parents, et que ceci n'est pas. On a beau le mettre à l'ovocyte, on n'arrive pas à le supprimer, on n'arrive pas complètement à le reprogrammer. Et donc, il y a quelques problèmes qui sont probablement liés à l'empreinte génétique et parentale et qui posent problème dans ce cas-là. Alors, bon, le grand fantasme sur le clonage humain, bon, moi je ne crois pas que ça va servir à quoi que ce soit. Hein, mais... Oui, il y a peut-être quelques vieux primordiaux, quelques vieux riches qui vont se faire cloner en pensant qu'ils vont perpétuer une lignée remarquable. Alors ça, d'abord, c'est pas vrai. C'est-à-dire que probablement les caractéristiques, d'abord, comme je vous l'ai dit, soit des anomalies, mais admettons même. L'espoir, par exemple, de dire, bon, ok, je suis un homme supérieurement intelligent, je me clone, mes enfants vont être supérieurement intelligents. Ça, c'est faux. Parce que, on a pu clairement démontrer, il y a deux, trois travaux qui avaient été faits qui semblaient démontrer que, mais qui étaient complètement biaisés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient de montrer aux États-Unis, qui essaient de montrer qu'il y avait une transmission héréditaire de l'intelligence à partir. C'était très, très politisé. En fait, c'était l'extrême droite américaine, ça n'est servi pour dire, oui, ça s'appelle de l'argent noir, parce qu'ils sont en milieu, justement. C'est très riche que là. Hein. Et en fait, comment ils ont biaisé, c'est-à-dire que c'est sûr que si vous biaisez l'échantillon, et c'est-à-dire que vous prenez des enfants d'un certain milieu, des enfants qui ne sont pas de milieu, etc., et là vous avez tracé les thèmes, mais c'est pas très génétique, vous avez tracé, c'est très social. Hein. Et en fait, tout ce qui a été repris montre qu'il n'y a aucune. Par les travaux qui ont été faits sur les jumeaux, hein, qui ont été séparés, les vrais jumeaux, ils n'ont même pas fait dans l'héritage, et on s'est aperçu qu'ils n'ont pas le même cul, ils n'ont pas la même potentialité. Hein. Donc, ça, je veux dire, il n'y a vraiment aucune raison de penser que. On a toutes les raisons plutôt de penser que l'impact, pardon, nos collègues enseignants, est beaucoup plus fort que l'impact génétique. De très très loin. Et des parents aussi, hein. Bien entendu, tout l'environnement de ce qu'on appelle la fille, et vous ne pouvez pas éliminer. Donc, je veux dire, le fantasme de dire que je vais essayer de connaître, je vais me cloner, les enfants sont exceptionnels, ça c'est déjà. Bon, ensuite, je veux dire, c'est très très. Ça marche très mal. Donc, vu le nombre d'essais, vous pouvez le pratiquer chez l'animal. L'animal poétique, c'est quoi, ça, il n'y a pas de problème. Ça m'étonnerait que l'espèce humaine se soit assez fortement accepté. Alors, par contre, il y a ce qu'on appelle le clonage à visée thérapeutique, c'est-à-dire, bon, c'est pareil, c'est un peu l'idée de la cellule souche, c'est de faire faire une lignée de cellules identiques qui présentent des caractéristiques et comment on peut utiliser. Là, il y a débat. Il y a encore une fois les anglo-saxons l'acceptent, la France très difficilement. Mais je ne suis pas sûr que par rapport à des cellules souches classiques, on va avoir un avantage quelconque de pratiquer ce genre de choses. Voilà. Allez-y. Hein. Non mais ça c'est un truc qu'il faudrait apprendre aux gens en France. C'est typique en France, on ne pose jamais de question. À l'étranger, quand tu as un peu, même le petit étudiant débutant, hop, tout ce que je fais aux États-Unis, le petit me dit, I did an aesthetic in Europe. Tu comprends rien ce que je dis. Le type, il a dit carrément ça. Du parquet d'avion, j'ai un peu le geste là, et je me suis aperçu qu'il avait raison. Hein. Mon anglais, quand je parle assez gros anglais, mais bah, c'était un peu difficile. Et puis, il m'a interrompu. Mais pas pour me déstabiliser, parce qu'il ne comprenait pas. Et ça, en France, on ne fera jamais. Hein. C'est pas qu'une médecine, nous, grands professeurs de médecine, si on fait ça, malheureusement. Voilà. Bon, d'abord, est-ce que vous avez compris d'abord? Est-ce que quelqu'un, vous avez rien compris ce que j'ai dit? Non, mais j'ai une question. Hein. Ça, c'est toujours intéressant en fait, pour.
Juste avant le deuxième analyse de clonage que vous avez développé, que vous avez dit que ça ressemblait à au principe des cellules souches, je vais vous présenter en français.
Ça ne ressemble pas au principe des cellules souches, ça ressemble à la stratégie qu'on veut utiliser pour les cellules souches. C'est-à-dire, on va faire une lignée. C'est-à-dire, j'ai une lignée dans mon tube, dans mon bocal, que je peux utiliser. Alors, cette lignée, elle peut provenir des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire qu'on a récupéré dans un embryon, ou des cellules clonées. Non, c'est le principe, après, c'est plutôt vous expliquer en détail comment ça fonctionne, hein, comme technologiquement. Mais bien, l'idée, c'est de disposer de cellules, entre guillemets, saines, c'est pas pour cause d'une mutation, par exemple, que l'on a, pas en pharmacie, mais à l'hôpital, et quand un malade, par exemple, est atteint d'Alzheimer ou une maladie génétique, ça, on va lui réimplanter des cellules, et qui vont remplacer les cellules malades, qui ont fait un Alzheimer en plus. Et on peut envisager deux types de sources. La première, c'est des cellules qu'on a extrêmes en embryon, qui commencent à proliférer, donc ça fait une lignée en entretien. Ou la deuxième chose, c'est qu'on prend des cellules, il y a plus de 300 embryons, par exemple, on fait des cellules clonées, qui va avoir les caractéristiques que l'on veut, puisqu'on va lui mettre le noyau que l'on veut. C'est plus clair. D'abord, il est très encadré, bien sûr. Ne peuvent pratiquer un conseil génétique que des spécialistes qui ont ce qu'on appelle un test de génétique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une accréditation. Ça, c'est le conseil génétique. Ensuite, il y a deux aspects. Il y a l'aspect contact avec les familles et il y a l'aspect technique, c'est-à-dire analyse, qui sont deux choses différentes. Hein. Alors, comment ça se passe en général? C'est soit un adulte qui pense, ou un clinicien, un neurologue pense, vous êtes peut-être atteint de la maladie 2, qui est une maladie adulte. Il va envoyer, enfin, c'est pas le procès génétique là, il va envoyer chez le généticien. Parce que lui-même, la deuxième chose qui est la plus fréquente, en fait, non, pas ça. Ce sont des dépendances dans le couple. Il faut donner une raison. Et la première chose qui se fait, c'est d'abord une étude familiale. Là, je parle pour une maladie génétique, hein, pas pour une trisomie. Trisomie, c'est l'âge. La raison de faire une analyse de trisomie 21, c'est l'âge de la femme, le père peut prendre. Mais dans une maladie héréditaire, donc qui est transmise à la génération, qui n'est pas le cas pour la trisomie, dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe quand le couple vient et on explique la maladie, on explique la sévérité, ce qui risque de se passer, quelquefois. Et après, c'est toujours le couple qui dit oui, non. Hein. Et ben, oui, d'accord, ben, je voudrais pratiquer une analyse génétique et voir si le fœtus est porteur. Et porteur de la mutation. Donc, dans ce cas-là, il y a prélèvement un effet et c'est envoyé à un laboratoire hospitalier agréé. Okay. Il va faire une analyse et qui va le rendre au médecin généticien. Qui va donc demander aux parents de revenir et qui va leur expliquer ce que vous dites. C'est-à-dire, alors, si le fœtus n'est pas porteur de la mutation, mais qu'il n'est pas porteur, c'est écrit en noir en haut. Donc, et s'il est porteur de la mutation, il va pas lui dire qu'il est sur la table, donc je lui dis, il va lui dire, voilà, la maladie, voilà comment ça se passe. Et après, c'est forcément la famille qui décide. Hein. J'ai même le médecin qui décide s'il y a une interruption de grossesse ou pas. Hein. Là, c'est complètement interdit. Donc, quant à l'analyse, donc, elle se pratique dans des laboratoires hospitaliers également. Et autre chose, c'est-à-dire ce qui se pratique aussi, l'agrément, c'est pour faire des analyses génétiques en criminologie, par exemple, pour rechercher une catalyse. Parce que ça existe, ça aussi. Ben là, c'est le procureur de la République qui doit vous mandater pour le faire. Moi, je dirais le nombre de gens qui téléphonent parce qu'ils n'ont pas confiance en leur femme. Moi, c'est ça. Hein. Pas le reste. Et bien, est-ce que c'est le bon père vous amusez à faire ça et que ça va au tribunal, c'est formellement interdit. Donc, tout ça, il est effectivement très encadré. Après, la décision, il y a toujours, par contre, on ne fait jamais un diagnostic génétique et un conseil génétique si l'interruption de grossesse n'est pas envisagée. Parce que ça ne sert à rien. Si au départ, la famille, de toute façon, veut garder l'enfant, ça ne sert à rien de faire tout ça et de perdre de l'argent. Hein. Il faut qu'il soit volontaire en cas de. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas obligé. Hein. Mais au moins, qui l'envisage l'hypothèse. pas le génocide et il n'a pas été dû à la génétique récente, hein, je ne parle pas de la Shoah. Il était au Rwanda, la machette, un peu de génétique. Hein. Donc je crois peu au danger. Je crois par contre beaucoup plus à l'absence de réussite, parce que je veux dire, si on regarde bien, qu'est-ce qui a été réussi? Non mais honnêtement, quelle réussite pratique, je dirais. Pas quelque chose en laboratoire. Hein. Les manies par laboratoire, oui, on les fait, on fait des clones, les publie, etc. Quelques animaux clonés qui ne se portent pas mieux, etc. Et finalement, les systèmes de sélection naturelle marchent aussi bien. Les histoires de IDG, ITG, etc. Moi, je ne connais pas le débordement. Oui, il y en a, mais ça, c'est, ils sont sanctionnés. Par exemple, je veux dire, la principale, c'est choisir le sexe. Il y a des gens qui font 1 000 $, ils font le diagnostic. Hein. Oh, c'est en Europe, c'est totalement interdit. Interdit. Hein. Mais bon, si vous voulez faire de l'argent, en Arabie Saoudite, ils vont ensemble. Pas de problème. Pas beaucoup d'argent. Non, mais je veux dire, voilà. Mais pour moi, je veux dire, c'est pas on a cru, y compris les histoires de prédétermination des comportements, mais bon. Par exemple, on sait que